Un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent...
Ça y est, plus 21h.
Marie Richeux.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Mes livres sont des autoconstructions nautiques, libres de leur mouvement et du choix de leur route. Ils peuvent prendre l'air ou l'eau, couler, voler, se composer de plusieurs histoires, de plaisanteries, de témoignages, vrais comme faux. Ils sont enrichis d'alluvions en provenance de tous les mondes, déposés en tel chapitre, contributions gracieuses des dieux. Ils sont produits par bien des faiseurs, rêvés, dictés, rapiécés, augmentés de fantaisie, d'où la pluralité de leur lieu de naissance. Si pour en noter le voyage, je suis à l'ancre dans mon bureau d'Aquitaine, mes esprits vont et viennent dans les villes et les temps qui habitent aux différents étages de ma librairie mentale. Merveille, cette page 64 de votre dernier livre, Hélène Cixous, comme une carte de là où l'on plonge. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci.
Ce texte s'appelle « Défions l'augure » et il est publié aux éditions Galilée. Vous écrivez dans ce passage qui semble presque nous offrir une forme de carte visuelle de l'espace que constitue le livre. Et dans ce texte, vous dites que les livres sont libres de leur mouvement, du choix de leur route, comme si c'était des espaces ouverts. Comment vivez-vous le début de l'écriture d'un livre ?
Je suis perchée sur une sorte de promontoire, d'arbre, de site, assez en hauteur. Et en général, j'attends que le vent souffle, et il y a beaucoup de vent. Et c'est un partenaire très important. Et je suis extrêmement patiente. Et donc je ne mesure pas le temps. Le temps qui passe, c'est peut-être 5 minutes, mais c'est peut-être 5 ans, 50 ans. Et puis, il y a un moment où... ça téléphone. Je dis ça parce que je ne sais pas encore ce qu'est ou qui est ça, mais de toute évidence pour moi c'est le livre. Et j'ai une énorme confiance en la venue, voilà, dans le surgissement. Mais pour ça il faut dire une chose, c'est que il y a certaines conditions qui me sont à moi, en tout cas, totalement nécessaires. Et quand je vous ai parlé du vent et de l'arbre, c'est que c'est véritable. J'ai besoin d'être dans un lieu où la nature vient à moi, je ne vais même pas dire à mon secours, mais à mon appel intérieur. Voilà. Et le livre fonctionne de cette manière, c'est-à-dire que quand je me mets à écrire en réponse, d'une certaine manière, et je ne sais pas très bien où nous allons aller, voilà. Mais le voyage a commencé.
Quand vous dites que vous avez toute confiance dans l'appel du livre, dans la manière dont il vous téléphone, ça veut dire qu'il ne vous a jamais trouvé intranquille.
Ce n'est qu'une question d'expérience. Et par exemple, je ne pense pas que ce soit communicable ou que ce soit une recette pour tout le monde. Mais je me suis rendu compte depuis toujours que le livre, pour moi, il arrive. Je ne vais pas le chercher, je ne sais pas le construire, je ne le programme pas, je l'attends. Alors, on pourrait se dire, c'est très angoissant, est-ce qu'il va arriver ? Je pourrais même me dire cela, mais il y a de la réponse. Peut-être parce que c'est une question de vie ou de mort. Ça, je ne sais pas. Et ensuite, il arrive sous une forme... Enfin, c'est comme s'il déléguait, comme s'il envoyait une sorte de messager ou d'oiseau primitif sous la forme d'une phrase. Une phrase courte. C'est un message, voilà. Il y a un message verbal qui me conquiert. Je me dis, mais c'est absolument merveilleux de recevoir cette phrase. Parfois, elle peut être une phrase qui a jailli d'un immense texte. Alors, pour vous donner un exemple, parce que ces derniers temps, j'ai eu comme ça une joie dont je n'ai pas ensuite développé la grâce, si on peut dire. Je lisais l'Iliade. Je lisais l'Iliade, c'est-à-dire je relisais l'Iliade, mais évidemment chaque fois une nouvelle lecture. Et puis je m'aperçois tout d'un coup que dans un certain champ, assez au début du texte, un personnage est en train de, comme toujours dans l'Iliade, est en train de d'évoquer tout un passé, tout un immense récit, toujours douloureux, tragique, etc. Et au milieu de ce long monologue, intervient une toute petite incise qui, dans le texte en français, est dans une parenthèse, et qui dit « mais c'est si loin ». C'est-à-dire tout ce que je suis en train de vous dire, tout ce que je suis en train de vous raconter. Puis, donc on est là, au présent. On rentre quelque part dans le tréfonds de l'expérience et du temps. Mais c'est si loin. Et ce « mais c'est si loin », il tranche tout, il perce tout. Et il dit, c'est ceci, tout ce que je vous racontais, est si loin que peut-être ça n'a jamais existé. Je me suis dit que c'était d'une beauté extraordinaire et que ça pouvait aussi être oublié, dépassé. Mais ça revient plusieurs fois dans l'Iliade. Et chaque fois, il y a cette chose que je trouve sublime. Et ben moi, je me dis que ça, ce genre de choses, voilà, trois mots, ou bien « we defy augury », enfin, « défions l'augure », ce petit moment infime dans « Hamlet » de Shakespeare, si moi je le reçois comme une sorte d'illumination extraordinaire, c'est que c'est illuminant, c'est que c'est un astre, c'est un météore, et c'est porteur évidemment d'une expérience humaine insondable. Et moi je suis ça, voilà, je suis le signe, je commence comme ça, et je sais que si j'ai réagi avec un tel bonheur, une telle jouissance, c'est que ce message est immense et qu'il va, voilà, guider le travail textuel bien au-delà de ce que j'imagine, que c'est une sorte de trésor.
Quand vous recevez le trésor We Defy, nous défions l'augure.
Oui, nous défions l'augure. Oui.
C'est-à-dire qu'on sent vraiment que vous recevez le trésor, vous êtes illuminé par cette phrase et vous vous mettez en marche, vous vous mettez en route.
Évidemment, si je le reçois, c'est parce que je l'ai déjà reçu. Hein, c'est que s'il m'arrive, c'est que c'est à mon adresse. Ça, c'est une évidence, c'est pas n'importe quoi, voilà. C'est que c'est tout simplement le nom, c'est comme si c'était le nom propre d'une expérience profonde. On pourrait comparer ça aux expériences que fait Proust. Ce sont des moments d'épiphanie, ça c'est Joyce. Des moments où on passe dans la rue, ça c'est Joyce qui raconte ça, il passe dans la rue, puis il entend une femme qui dit à un homme qui la sert de près, « Ah oui ?» Non. Et hop, on a une nouvelle qui arrive. Quand je reçois nous défions l'augure, il y a d'abord une jonction entre le temps de Shakespeare qui lui-même est en connivence avec d'autres temps, le temps de Montaigne et toutes les méditations sur le temps subjectif qui font la littérature toujours, hein. Et puis bien sûr que si moi je l'ai déjà reçu, c'est que peut-être c'est la loi de ma vie. Et que je l'avais jamais appelé comme ça, voilà. D'abord, moi, personnellement, je n'aurais peut-être pas utilisé le mot d'augure. Même, alors, ça relève d'une certaine culture, d'une certaine civilisation, mais ça me va tout à fait. Et bien sûr que si j'écoute ça, je me dis, alors, tu veux me dire quoi? Oui, je sais. Nous, les êtres humains, moi, personnellement, et toi, et nous, que sommes-nous? Que faisons-nous? Comment sommes-nous? Comment survivons-nous? Parce que nous défions l'augure. L'augure qui, de toute façon, nous dit, je traduis, mais c'est ce que je vis et que vous vivez, bien sûr, ce n'est pas une expérience impartageable. Je vis ça, je vis tous les jours, finalement, tout ce que je fais, c'est en relevant le défi. Et l'augure me dit, tu te souviens que tu es mortel? Non, ça ce n'est rien. Tu te souviens que l'autre est mortel et que cette mort-là, c'est ta mort. Comment est-ce que je continue à vivre alors que ce qui m'est annoncé, c'est la mort? Voilà. Ben, par un mouvement extraordinaire et qui est peut-être le mouvement de l'écriture.
Exactement, puisque vous écrivez cela. Vous écrivez, c'est parce que j'ai eu à mourir plusieurs fois que j'écris en prévision. C'est parce que je sais que je suis mortelle, ou plutôt que l'autre est mortelle et qu'elle signifie cette mort, la mienne, alors j'écris. Vous dites c'est la loi de votre vie, mais c'est surtout ou peut-être la loi de votre écriture, Hélène Cixous.
Je ne les dissocie pas, hein, parce que le sort a fait, ou la mort a fait, que je ne peux pas les dissocier, c'est-à-dire que je sais que ma vie d'écriture, c'est à peu près la même chose, a été décidée par un éclat violent, une apocalypse, qui était le moment où mon père a disparu très brutalement, et où j'étais tellement démunie, et où j'ai fait une expérience qu'ensuite j'ai retrouvée partout en poésie, en littérature, et qui était l'expérience de la disparition instantanée de l'univers. C'est-à-dire que devant moi, il y avait le jardin où mon père attendait que les violettes qu'il avait plantées fleurissent, et qu'il n'a pas pu voir fleurir. Et puis tout a disparu, il y avait un abîme à la place du monde. Et là je me suis dit, et alors maintenant, on fait comment? Il n'y a rien, quoi. Voilà, il y a l'abîme, le néant. Cette expérience, je l'ai eue, mais bien d'autres personnes l'ont eue, et avec évidemment chaque fois une scène extrêmement précise. J'imagine ce qui se trouve devant un abîme qui aurait été creusé par une bombe, par l'écroulement d'une maison, par une arrestation brutale, une expulsion, enfin mille choses qui font que vous perdez le monde. Et alors, moi, mon expérience, c'est... alors maintenant, soit je disparais aussi, mais quand on est très enfant, en fait, je crois qu'on ne tombe pas dans l'abîme, mais on cherche à se fabriquer un radeau. Et pour moi, le radeau, c'était du papier.
Combien de cartes postales? Des tours, les tours, une vingtaine. L'idée d'un temps où il n'y aura plus de cartes postales des tours, quand? La fin arrive. L'idée me vient que quelque part au loin de moi, la machine à redouter et reprendre les vols de la vie a déjà accepté, longtemps avant moi. Cela me serre le cœur. Je me fous des augures. Foutaise. On est fou. On est fou. Désormais, j'ai peur pour nous. Mais ce sont des fouleries. On peut remplacer les dents. Les tours, ça se remplace. Sauf une. Mon âme est dans la tour de Montaigne, à l'abri. Nous nous relevons. Les vols commerciaux ont repris. Sans perdre un jour. Bon appétit, dit ma mère. Je vais manger ma choucroute. En Angleterre ? Dis-je. Une boîte, dit ma mère. Et toi ? Ici, je laisse ma mère manger sa choucroute. Je respecte sa choucroute. Sa choucroute m'amuse. Elle est riche en signifiants. Elle contient même une tour, et plus d'un tour, comme ma mère. Les tours, nos mortes, nos morts, combien de morts ? Il faut ajouter tous les morts que la mort des tours a fait tomber dans les escaliers de la mémoire.
Hélène Cixous, Romain de Bec-de-Lièvre lit un extrait de votre texte « Défions l'augure ». Et vous parliez à l'instant de la manière dont le livre ou l'écriture vient après que les choses se sont écroulées, après l'effondrement. Et je trouve que dans ce texte-là, l'image des tours écroulées du World Trade Center est quasiment originelle. Originaire, mais vous écrivez que finalement ce ne sont pas les seules tours, que ce livre est presque jonché, ponctué, habité par les tours.
Oui, c'est le sort presque général des tours. les détours des tours. Ces tours de Manhattan, pour moi, ce sont des tours... Enfin, elles sont mes tours comme elles sont les tours de millions de gens qui les avaient intériorisées, pour qui elles étaient liées à des expériences de vie, des moments en général joyeux, parce que monter dans la tour, c'est toujours une expérience extraordinaire. On va plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, on domine le monde, et ce monde, il est promis à la ruine. Voilà. Et la tour aussi. Alors, moi, j'ai eu une vie parmi bien des vies. J'ai eu une vie qui s'est effondrée avec les tours. Et on ne peut pas s'empêcher, je crois, lorsque quelque chose d'aussi monumental, d'aussi triomphant, d'aussi glorieux que ces tours, qui étaient jumelles et qui donc en plus font couple, qui donne à tous ceux qui les contemplent le sentiment de voir un couple amoureux, voilà, ou bien alors des jumeaux qui entrent à ce moment-là dans une sorte de figuration mythologique. Ces joyeuses tours qui disparaissent d'une manière aussi incroyablement tragique, c'est la destruction de Troie, quoi. On se dit, c'est un monde qui disparaît, et c'était le mien, un parmi tant d'autres. Alors, après, je pense qu'on ne peut pas ne pas se dire que c'est un avertissement épouvantable, c'est un déluge, enfin ce qu'on voudra. Et bien sûr qu'ensuite, la vie reprend comme ça s'est passé là-bas. C'est-à-dire, il y a ruine et relève et résurrection. La résurrection n'efface en aucune mesure la ruine. Et je pense que nous sommes tous peuplés justement de ce mélange de ruine et de résurrection. Là, en plus, il y a un impact, mais c'est pas ça que le livre prend en compte. Il y a un impact politique et tout ce qu'on voudra. Non, là, c'était vraiment des œuvres d'art, des œuvres aussi de l'orgueil humain et de, je dirais, d'une forme d'innocence qui est condamnée de toute façon. On peut pas être au-dessus de tout, mais c'est bouleversant. C'est parce que c'est si profondément justement l'histoire des hommes. C'est une fatalité. Bon. Et là, je trouve ça aussi merveilleux, restent les ruines sous toutes les formes, d'innombrables cartes postales. Alors on se dit aussi, ben, il reste les cartes postales. Sauf que la question se pose, comme vous l'avez entendu, et jusqu'à quand il reste des cartes postales? Parce qu'il y a un jour où les cartes postales des tours, elles n'existeront plus non plus, sauf dans les musées. Bon, de même que les ruines qui restent vivantes, qui portent encore des traces, qui respirent, qui pleurent, elles sont aussi effacées, elles vont être bétonnées, remplacées par quelque chose, etc. Bon, c'est notre existence. Et pour moi, c'est la même chose, par exemple, que de vivre la même expérience dans un autre temps. Alors, je vois mon grand-père, allemand, Michael Klein, qui a 34 ans, qui se dit... qu'il faut prouver que les juifs allemands sont aussi allemands, sinon plus que les allemands, et qui donc s'enrôle dans la plus grande des guerres. C'est comme une tour, comme ça, immense, voilà. Et on va gagner. Voilà. Et puis en 1916, il est tué. Et c'est comme le cycle, comme ça, de nos rêves, de nos ambitions, de nos croyances qui ensuite s'effondrent. Et la trace de ces histoires innombrables, qui se font écho, qui font comme une sorte d'orchestre extraordinaire de tout ce que nous avons pu vivre, perdre, et puis ensuite essayer de garder, elle tisse sans arrêt, comme ça, l'art, l'écriture, bon. Et elle nous émeut dans la mesure où elle s'incarne. Voilà. Où elle prend un visage que nous connaissons ou que nous reconnaissons. C'est pour ça que je dis aussi chacun ses tours, hein, et chacun des visages à ses tours.
Autant de tours et de visages qui entrent et sortent du livre. Hélène Cixous, vous dites que finalement ce sont nos vies, ces ruines et ces résurrections, la ruine et la relève, et au fil des pages, meurent et reviennent les êtres ou les visages dans ce texte-là. Pas seulement dans ce texte-là, mais dans ce texte-là de manière assez prégnante. Parfois, par exemple, vous écrivez « Marcel est entré dans le livre » ou « Ma mère est entrée », un enfant entre une fille, un oiseau. Ils entrent de manière physique, elles entrent de manière physique, ces présences-là.
Oui, tout à fait. Et parce qu'en fait, si on y songe, bon, moi quand j'écris, le temps est au présent, voilà, est au beau fixe du présent. J'écris dans le temps présent. Voilà. C'est exactement comme au théâtre, si vous voulez. Ça, c'est une expérience qu'on a toujours au théâtre, c'est toujours au présent. Voilà. Mais c'est dans, comme ça, l'espace, dans sur la terre du théâtre, dans le monde du théâtre. Et puis, en fait, si on y songe, comme pour le livre, il y a le temps du livre qui lui-même est comme une sorte de monde dans lequel s'inscrit le monde de l'écriture. À ce moment-là, on se rend compte que, comme pour un théâtre, donc, c'est pas la métaphore que j'utilise là, hein, mais ça fonctionne de la même façon. Qui empêche justement, dans qui que ce soit, ou quoi que ce soit, ou quelque événement que ce soit, d'entrer et de sortir, il n'y a aucune raison de se conformer, par exemple, à un temps chronologique. Ça, c'est une illusion. C'est quelque chose c'est une loi qui nous est imposée pour fonctionner. Mais notre temps à nous, le temps que nous vivons, c'est toujours un temps anachronique et qui se fiche de la date, parce que il se peut très bien qu'il soit 2001, 1640 et 1924, le temps où Stendhal va rencontrer son premier lecteur, et 2027, où je me dis, alors là, où serais-je perché pour regarder ce qui est en train de se passer, etc. Or, ces temps-là, exactement comme les personnages, entrent, voilà, ils n'ont aucune raison de s'excuser, de dire, alors maintenant, je vais faire ceci, cela. Non, là, c'est ouvert, entrez. Et il suffit que le lecteur, et lui aussi, partage aussi cette simultanéité qui fait notre richesse intérieure, pour que on circule comme ça. Je mets une date dans la page. Je lisais récemment un livre où je me suis amusée à mettre dans la marge, d'ailleurs, les dates des innombrables événements qui étaient évoqués, qui est un livre qui s'appelle « L'esthétique de la résistance », un livre sublime de Peter Weiss. Et lui, il tisse comme ça de manière extrêmement intense une logique politique très importante. Mais on passe tout le temps, voilà, d'un pays à l'autre, d'une histoire à l'autre. Et ça, je crois que c'est ce que nous devons à la littérature, c'est-à-dire la possibilité infinie d'accueil de tout.
Ceux qui m'accusent d'hermétisme, c'est ou bien qu'ils ne font pas le travail, et je crois que tous les textes appellent un certain travail, ou bien ils en comprennent assez, ils savent que les lecteurs ou les auditeurs en comprennent assez, pour penser qu'il faut pas, il vaut mieux rejeter ça d'avance. Hein. Donc je crois que l'accusation d'hermétisme ne tient pas. D'abord parce que je fais tout ce que je peux pour être clair, dans la mesure où la clarté ne nuit pas à la complexité des choses, bien sûr. Au-delà même du contenu, la manière dont les codes, hein, ou les normes d'écriture ou de langage que j'ai cru devoir proposer, paraissait même plus menaçant que le contenu même, si on peut dire. C'est la manière de formuler les questions, de parler, de s'adresser à l'autre, de faire des phrases, de croiser des références. Autrement dit, ou ce qu'on appelle couramment la rhétorique ou la manière d'écrire, ont été probablement jugées plus redoutables encore que le contenu même.
La forme plus redoutable que le contenu même, c'est la voix de Jacques Derrida en 1986. La radio permet aussi d'accueillir à tout va, comme vous dites, Hélène Cixous. On est à la fois en 2018 et en même temps en 1986 en écoutant cette voix. Vous disiez à l'instant, juste avant d'entendre Jacques Derrida, le livre c'est l'accueil de tout. Et lui, il parle de la forme. Comment on fait, ou dans quel état se met-on pour que le livre soit l'accueil de tout, justement, que la forme soit l'accueil de tout?
D'abord, il faut que je lui dise merci hein, d'avoir dit exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. Voilà, par exemple, là, eh bien, même si Derrida n'est pas, il est. Et quand j'entends sa voix, eh bien, il est. Bien sûr, je pourrais me dire, ah, non, il n'est pas, il n'est plus là, etc. Oui, et en même temps, non, voilà, il est là et il dit ce qu'il faut dire au bon moment.
Notamment voilà. Sur l'hermétisme, par exemple.
Oui, alors ça, c'est un problème. C'est-à-dire que je pense que c'est un sentiment que peuvent avoir certains lecteurs, et que c'est un sentiment transitoire, momentané, qui n'est pas nécessairement mauvais. Bon, si ça s'installe, si ça devient quelque chose qui doit perdurer et qui devient de la résistance, c'est pas bon. Mais on peut tout à fait avoir le sentiment, à un certain moment, qu'il y a quelque chose qui nous échappe. On peut se dire ce que se disait ma mère quand elle était très âgée. Elle me disait tout le temps, je suis perdue. Alors, elle savait plus où elle était, mais c'était pas Non, c'était juste qu'elle avait la force d'exprimer quelque chose qui montrait qu'elle n'était pas perdue. Eh bien, on peut sentir ça, on peut se dire ce genre de choses. Et par contre, ce qu'il faut faire, c'est s'en réjouir. Parce que c'est merveilleux d'être devant un livre qui vous résiste et qui ensuite, au contraire, va petit à petit s'ouvrir. Soit il s'ouvre tout de suite et immensément, soit c'est comme si on prenait Aurélia ou enfin un livre de Nerval. On est devant les portes de d'ivoire et de corne, ça va s'ouvrir, voilà. C'est un petit peu comme un rêve. Je peux me dire d'un rêve, ça veut rien dire du tout, je comprends rien. Ou bon, et il suffit justement que je l'écoute et que je suive ces traces qui sont d'une autre logique que la mienne pour que petit à petit, au contraire, il s'ouvre et accueille.
Lui, il dit, Jacques Derrida, dans cette archive. En plus, je cherche à être claire, mais pas trop parce que je ne veux pas nuire à la complexité.
Oui, c'est parfaitement vrai. Parce que pour être... enfin, c'est d'une sorte d'évidence. C'est-à-dire que quand on tisse quelque chose, quand quelque chose est extrêmement tissé, ce qui est le cas du texte, ce qui est le cas justement de l'écriture poétique ou philosophique, la trame est extrêmement serrée. Et donc, si on veut jouir de chaque fil, il faut du temps, il faut dénouer, il faut ouvrir, il faut écarter. Alors, on pourrait réduire à un seul fil. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons un tout petit peu quand nous sommes en état d'oralité. C'est-à-dire que moi, je sais très bien que quand je parle, ma voix va courir sur une corde pendant quelque temps. Et donc, cette corde, elle va tirer de très très loin. Et tout ce que je suis en train de dire, qui va durer peut-être 2 ou 3 heures, je pourrais trouver en texte des formules qui rassembleraient, condenseraient en une seule page ce qui m'a pris 3 heures à développer de manière linéaire. Voilà.
C'est dire qu'en fait, ce sont des espaces différents, puisque vous parlez de tissage. Votre voix ou l'oralité va en effet, comme ça, course à course de manière horizontale, quand le texte a une forme de verticalité et d'épaisseur.
Oui, mais enfin, la verticalité, elle peut être aussi horizontale. Je veux dire, c'est simplement que là, on a multiplié les 20, 30, 50, 100 fils. À ce moment-là, on peut avoir justement une illumination en quelques instants. C'est d'ailleurs, c'est le propre de la poésie. Ce qui fait que la poésie se présente sous forme courte, parce que si Rimbaud écrivait des poèmes de 50 pages, non, ce sont des fulgurations. Mais ces fulgurations, elles contiennent la même chose. Si je commence à tirer des fils, ce que Derrida est obligé de faire en tant que philosophe, il est de temps à autre didactique et il fait aussi quelque chose qui est en direction du lecteur et qui consiste à dire plusieurs fois, à reprendre, à revenir. Vous me suivez? Vous me suivez? Bon, alors la littérature va vous dire, vous me suivez ou vous ne me suivez pas. De toute façon, vous n'avez pas à craindre d'être totalement égaré parce que le livre a quand même sa limite. Voilà. Mais il est vrai que le livre va très vite et que la vitesse à laquelle un texte se déroule ou se manifeste, elle demande une vitesse équivalente au lecteur et s'il ne l'a pas, ben il faut justement qu'il multiplie ou démultiplie ses lectures. Et ça, c'est le sort du livre et du lecteur.
Quand il dit que ça demande un travail, que le texte demande un travail...
Ça demande un travail.
Joyeux.
Joyeux, délicieux. Délicieux. Et il faut se dire aussi, mais ça c'est une merveille, il faut se dire que c'est ce qui fait des vrais livres, des trésors absolument inépuisables. On peut les relire 10 000 fois, c'est le même et c'est un autre, chaque fois.
La vraie charme des gens, c'est le côté où ils perdent un peu les pédales. C'est le côté où ils ne savent plus très bien où ils en sont. Ça ne veut pas dire qu'ils s'écroulent, au contraire, c'est des gens qui ne s'écroulent pas. Mais si tu ne saisis pas la petite racine ou le petit grain de la folie chez quelqu'un, tu ne peux pas l'aimer. Tu ne peux pas l'aimer. C'est bien le côté où il est complètement quelque part. Ben on est tous un peu dément. Si tu ne saisis pas le petit point de démence de quelqu'un, alors j'ai peur ou je crois, ou au contraire, je suis bien content que le point de démence de quelqu'un, ce soit la source de son charme même.
Par les temps qui courent.
Ouais.
Par les temps, Marie Richeux.
Madame rêve d'atomiseur et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh ciel, oh ciel. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, loin.
On est loin.
Madame rêve, ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire.
Hélène Cixous, on entend chanter Alain Bachung, Madame rêve. Et il est beaucoup question de rêve, de ses retours dans Prière d'insérer. Vous dites que c'est revenir qui est le paradis, le retour des rêves, de ce qu'on a rêvé. Quelle place cela prend à la fois dans votre processus d'écriture et ensuite, après, dans ce tissage serré qu'est le livre, le rêve?
C'est un peu ce que quand je dis que vivre et écrire, pour moi, sont indissociables. Alors après, il faudrait développer, justement. Et ajouter que écrire est indissociable pour moi du rêve qui est source et moteur, énergie pour tout ce que j'ai écrit. Là, par contre, je suis moins assurée de la venue du rêve qui ne m'a jamais lâchée. Hein. Je vis au rêve et j'écris au rêve. Mais
vous n'avez jamais pas rêvé.
Je n'ai jamais pas rêvé, mais par contre, comme le rêve justement ne se commande absolument pas, ce qui est une expérience extraordinaire, bien là, il y a une petite menace qui est tout le temps là et que je savoure et qui me murmure comme ça. Et s'il y avait plus de rêve, c'est comme si on me disait s'il y avait plus d'aile, voilà, ou s'il y avait plus d'eau, ou s'il y avait plus d'air. Ça me terrorise. Parce que je ne peux pas le commander, du tout, du tout. Et que c'est nocturne, que c'est tellement mystérieux, ça échappe à tout. C'est d'une indépendance, d'une puissance, voilà. Mais il se trouve que moi, je suis fabriquée de cette manière-là, à l'aide de ces messagers, de ces espèces d'anges mystérieux, qui peuvent être extrêmement cruels, parce que c'est pas rigolo, hein, et qui peuvent en même temps être... qui peuvent dispenser des joies surhumaines.
Les rêves.
Ah oui. Je crois que je vis à l'aide des rêves, je survis à l'aide des rêves, parce que voir revenir ce que les rêves accordent est de manière absolument incontrôlable, donc comme une sorte de grâce mystérieuse. Voir revenir véritablement, en chair et en os, vivre avec moi, des êtres dont la disparition et m'affaiblit, me pourrait me désespérer, et tout d'un coup les voir entrer, arriver, partager un repas avec moi, une discussion, lire un livre, entendre ce qu'ils ont à me dire, c'est une promesse. C'est ce qui fait que chaque fois que je me couche et que je me dis, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais revenir cette nuit?
Ça marche
bien
pas
sûr
toujours.
Que non, ça ne marche pas. Mais ça ne fait rien, j'attends. J'attends, j'espère, et puis le jour où je ne l'attends pas, parce que c'est toujours comme ça, voilà que un bien-aimé ou une bien-aimée arrive comme ça, précipitamment, me dit « Tu m'excuses, j'ai oublié de te téléphoner, ou tu m'as pas téléphoné depuis combien de temps? Qu'est-ce que tu as fait ?» Et je me sens terriblement coupable, mais je me précipite, et puis voilà. Et je me dis « Rien n'est perdu, nous avons tout perdu et rien n'est perdu. »
C'est le cas de votre mère qui revient beaucoup
tout le temps.
Dans ce livre, qui revient avec des choses parfois incommensurables de penser à déplier, parfois avec des choses beaucoup plus simples en apparence, comme savoir ce qu'on a mangé ou comment on va se faire à manger. Mm-hmm. Ces retours-là de votre mère sont toujours des retours que vous accueillez en souriant ou avec douceur, ou parfois ils sont trop chamboulants.
Je n'ai jamais été cruelle avec ma mère, mais je dois dire que ma mère, c'est moitié mémoire, parce qu'elle est très présente en moi, je l'entends tout le temps. Il m'est même arrivé d'avoir des hallucinations auditives, de me précipiter vers une chambre en me disant « c'est pas possible, j'ai entendu sa voix ». Mais elle a imprimé en moi ses discours, sa rhétorique amusante, son incroyable capacité d'observer le monde à sa façon non polluée, tout à fait singulière. Et son don pour les langues à un niveau comme ça de maternelle, quoi, c'est-à-dire une invention permanente. Et donc je l'entends beaucoup, et puis de toute façon je peux reproduire pendant la journée des rites, quoi, les coups de téléphone du matin ou avant qu'elle habite avec moi, où elle peut me dire je suis en train de regarder telle émission de télévision, voilà. Tu sais, il y a des gens qui de l'autre côté du monde sont en train de mourir, c'est absolument incroyable. Et alors le vilain petit qui dirige l'État, il ne peut rien faire naturellement. Et alors là, je viens de manger mon croissant et toc, on raccroche. Et je me dis, c'est quand même le résumé d'une vie, d'une énergie. Ça, c'est quand elle a plus de 100 ans. Hein. Et puis, moitié rêve. Mais en rêve, elle a une apparition un peu particulière. Tantôt, et ça c'est une bénédiction, elle revient, elle n'a que 50 ans et on commence à courir le monde comme on le faisait. Tantôt elle est vieille et je sais qu'elle se mélange comme ça de sa propre mère qui était ma grand-mère. Et je sais que c'est une sorte d'être adoré, double et tout à fait charmant qui fait que je me fais un certain type de soucis parce que là c'est l'âge qui signe. Bon. Puis il y a d'autres personnes qui viennent, quand mon père vient...
Dans le livre
dans les rêves, c'est toujours un bouleversement inouï et terrible. Parce que jamais, parce qu'il vient vivant, il vient, quelque chose va se passer, mais le rêve n'oublie jamais qu'il est mort. Jamais. Alors que le rêve avec ma mère, elle est là.
Bon. Elle est au présent.
Elle est au présent. Mon père aussi. Sauf que il vient, il a une permission. Et je sais que cette permission, elle est courte, que ça va durer un jour ou quelques heures. Et donc, c'est dans une sorte de joie endeuillée et terrible que je le retrouve et qu'on se donne des nouvelles.
Nous mentons. Nous faisons tout au monde pour protéger l'amour. Nous cachons. Nous dissimulons. Nous ne nommons pas les peurs et les dangers. Nous ne révélons pas les secrets. Nous couvrons un secret avec un autre secret. Je ne dis jamais que nous sommes logés au quatrième étage du secret par ma mère. Nous ne disons rien. Quand Isaac vient, je dis à ma mère « va ». Et ma mère va. Comment survivre sans le secours de ma mère, sans son silence, sans son absence, sans la constance de son indifférence, sans les clés de son appartement? Isaac ne le sait-il pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il sait et ne sait pas. Qu'importe que nous ne sachions pas ce que nous ne savons pas. L'amour ne peut pas vivre sans être menacé et sauvé. Mentons. On ne ment pas quand on ment pour sauver sa vie. Chez les Juifs, tu peux même manger du cochon, dit maman. Fais-le et ne le dis pas. Samedi, je suis allé chez ma cousine à Rothschild. Ma cousine, l'eau chaude, elle ne savait pas si elle pouvait s'en servir. Heureusement, il y avait le rabbin. Et alors, tu sais la réponse du rabbin? Je vais étudier le cas. J'étais là quand il a dit ça. Du jambon, ça m'arrive. Tu crois que je vais lui dire? Ne dis rien. Vis. les grands amants mentent de toute leur âme. Dis que tu es ma sœur, dit Abraham, et Sarah l'accompagne sous un mensonge de soi. Le mensonge est le manteau magique qui nous rend invisibles et sert de visa à nos évasions, dit Tristan.
Romain de Bec de Lièvre lit un extrait de Défions l'augure, Hélène Cixous, ou plutôt plusieurs petits extraits que l'on a raccrochés, puisqu'ils évoquent l'idée de ne rien dire, de mentir et les divers états du mensonge. Il m'a paru en lisant ces pages qu'il y avait quelque chose là comme une sorte de pierre d'angle, quelque chose qui nous permettait d'éclairer de manière assez lumineuse le reste du texte. Fais-le, ne dis rien, fais-le.
Fais-le, ne dis rien, c'est une recommandation pour survivre. je pense que l'histoire du mensonge est liée quand même aussi à cette réflexion sur le secret. Notre expérience, c'est que si nous voulons sauvegarder, garder en vie le plus précieux, il faut le cacher.
Quand vous dites notre expérience, vous parlez de qui ?
Quand je dis notre, c'est la nôtre, celle des êtres humains. Alors la mienne, parce que je l'élabore, et où je dirais elle est élaborée dans tous les textes. Il y aurait bien sûr à suivre, par exemple, l'histoire des innombrables mensonges, vrais ou faux, des faux mensonges, des mensonges de mensonges, etc., qu'on trouvera dans Proust. Et il y en a partout. Mais je crois aussi que c'est une façon de dire, comme on le voit dans toutes les grandes histoires d'amour, que l'amour ne survit pas comme ça dans la société. Quand c'est un amour du genre de celui de Tristan et Iseut, pour dire le véritable amour, celui qui est indissociable de la figure de la mort, s'il n'est pas absolument caché, de toute façon sera tué. Ou Roméo et Juliette, enfin ce qu'on voudra. Il faut le tenir secret, il faut le tenir dans l'abri. Et en même temps, c'est une vue de l'esprit, parce que notre expérience justement d'êtres humains, même pas faillibles, mais assujettis à l'histoire et à l'événement, c'est qu'on n'arrive pas à garder le secret. Et que, tout ce qu'on peut faire, c'est tout faire pour ne pas dire, voilà. Parce qu'il peut y avoir... comme une sorte de protection, de membrane qui, finalement, est une ultime défense du secret contre l'exposition qui va le détruire, et qui est quand même le silence. C'est ne pas dire. Mais ne pas dire, c'est pas évident, hein. On voit que les gens qui ne veulent surtout pas dire, apprenons, pour parler d'actualité. Prenons Raskolnikov dans Le Crime et Châtiment.
Pour parler d'actualité.
C'est une question d'actualité. C'est aujourd'hui, ça. Enfin, c'est la semaine dernière. Il y a le meurtrier garde en lui-même le secret du meurtre à tel point qu'on finit par se demander même s'il y a eu meurtre. Et sa seule chance de salut, c'est de ne jamais dire. Et on le voit qu'il tourne comme ça autour de la flamme de l'aveu pendant des centaines de pages. Mais tant qu'il n'aura pas dit, il n'y aura pas eu.
Ce qui est vraiment une défiance à l'augure. Ce qui est précisément une défiance à l'augure.
Ah oui, tout à fait.
Tant qu'il n'y aura pas dit, il n'y aura pas
exactement.
Eu. C'est une défiance à l'oracle.
D'ailleurs, il est dit que nous ne nous rendons à la mort que par une faiblesse de notre volonté.
Vous écrivez noir sur blanc, Hélène Cixous, qu'on peut s'en défaire, qu'on peut faire une sorte de pas de côté et défier l'idée de la mort, être de l'autre côté.
Mais je pense que c'est ce que nous faisons quasiment tous les jours. Alors de manière plus ou moins forte, urgente, légère ou au contraire passionnée. Et puis avec plus ou moins de... en payant un prix différent. Soit nous vivons morts, ce qui quand même arrive très souvent, je dirais même dans la majorité des cas.
Et nous mourrons lentement, écrivez-vous.
Voilà. Soit, au contraire, nous savons qu'elle nous attend, ou il, parce qu'on ne sait pas très, très bien quel est le genre de la mort. Hein. Et puis ça change aussi selon les cultures et selon les langues. Alors ça nous attend juste là, au seuil, à la porte. Et c'est avec cette conscience, cette proximité que nous poursuivons, que nous élaborons, que nous tenons. et que nous faisons reculer l'échéance. Ça, c'est le thème de Montaigne. Avec cette loi extraordinaire que Shakespeare définit par quelques mots très célèbres, « The readiness is all », c'est-à-dire tout ce qu'il faut, c'est être prêt. Ça sort de Montaigne directement et des réflexions de Montaigne sur le fait que nous sommes en mourir. Et comment traiter de ça? Parce qu'il est parfaitement vivant, hein, même s'il fait plusieurs fois des expériences de mort. Justement, c'est en étant prêt à mourir qu'on ne se laisse pas surprendre par la mort, mais au contraire, qu'on surprend avec la vie.
Et comment vous préparez-vous? Ou comment êtes-vous prête?
Mais moi, j'ai pas tellement de mérite parce que justement, j'ai un outil qui m'a été donné quand j'étais toute petite et qui est l'écriture. C'est-à-dire que quand on écrit, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de mort, on est dans une sorte d'éternité extraordinaire parce que cette éternité absolue, elle s'arrêtera dans quelques heures. Mais elle va recommencer.
Oui, c'est un beau pays.
J'y ai souvent pensé. Des voyageurs m'en ont parlé, j'ai lu ce que j'ai pu. Et souvent, comme aujourd'hui, au milieu de l'aigre printemps de ce pays, je pense à la mer et aux fleurs de là-bas. Et ce que j'imagine me rend aveugle à tout ce qui m'entoure.
Je comprends cela. Le printemps de là-bas vous prend à la gorge. Les fleurs éclosent par milliers au-dessus des murs blancs. Si vous vous promeniez une heure sur les collines qui entourent ma ville, vous rapporteriez dans vos vêtements l'odeur de miel des roses jaunes.
Cela est merveilleux. Ce que nous appelons le printemps, ici, c'est une rose et deux bourgeons qui viennent de pousser dans le jardin du cloître. Cela suffit à remuer les hommes de mon pays. Mais leur âme ressemble à cette rose avare, un souffle plus puissant les fanerait. Ils ont le printemps qu'ils méritent.
Vous n'êtes pas tout à fait juste, car vous avez aussi l'automne.
Qu'est-ce que l'automne?
Un deuxième printemps. Où toutes les feuilles sont comme des fleurs. Peut-être en est-il ainsi des âmes que vous verriez fleurir, si seulement vous les aidiez de votre patience.
Je n'ai plus de patience en réserve pour cette Europe où l'automne a visage de printemps et le printemps odeur de misère. Mais j'imagine avec délice cet autre pays où l'été écrase tout, où les pluies d'hiver noient les villes, et où enfin les choses sont ce qu'elles sont.
C'est Maria Cazares et Pierre Reynal qui lisent Le Malentendu de Camus, un extrait en tout cas, Hélène Cixous, et ces deux pays, pour évoquer à la fois la question de l'exil avec vous, mais aussi du paradis perdu, puisque dans la voix de Maria Cazares, le printemps et l'été de l'autre pays est vraiment dessiné comme un paradis, mot qui revient très souvent dans ce texte défiant l'augure. Il a quelle image pour vous ce paradis?
Pour moi, c'est pas le paradis perdu. Non, c'est revenir, comme je le dis souvent, c'est revenir qui est le paradis. Je ne sais pas... Là, j'ai écouté la voix de Maria Cazares, alors parlons justement de quelque chose qui est perdu et qui n'est pas perdu. Elle a une densité dans la voix, là, une sorte comme ça de profondeur. Cette profondeur, c'est la richesse de sa voix. Il y a des moments où elle l'a moins, parce que tout d'un coup, elle sort de comme ça, elle sort de la profondeur, elle monte à la surface sur les planches, et à ce moment-là, une voix de théâtre. Mais la plupart du temps, elle a une voix des profondeurs. C'est magnifique à ce moment-là. Mais je pense que le paradis auquel nous, enfin, il se trouve qu'il nous a été donné ce qui s'appelle le Pardèche, c'est-à-dire le jardin. Et que nos existences, mystérieusement, semblent naître de la terre, du jardin, des plantes, de ce dont nous savons que ça meurt par saison et que ça renaît. Maintenant, c'est lorsque quelque chose nous est rendu que nous éprouvons le bonheur de... Le bonheur paradisiaque, c'est pas lorsque nous avons quelque chose. C'est lorsque nous avons perdu et qu'il nous est accordé justement un retour toujours inespéré. Parce que nous ne pouvons absolument pas espérer, ça ne sert à rien. Mais voilà. Et là, on a une sensation de paradis. D'ailleurs, je dois dire que les personnes qui ont fait l'expérience du paradis, c'est-à-dire nos ancêtres bibliques, eux, ils ne connaissent que le paradis perdu. Ce n'est pas notre expérience à nous. Nous, nous sommes de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on est du côté de l'autre chose qui est aussi douloureuse et qui est du côté de la terre promise, c'est-à-dire qu'on y va, on y va, on y va, mais on n'y arrivera jamais. Voilà. Mais en vérité, le bonheur, ce n'est pas d'y arriver, c'est d'y aller.
Il y a beaucoup de références, vous faites écho là aux ancêtres bibliques. Il y a beaucoup de références, dont probablement une immensité qui m'échappe, à des textes bibliques. Ces références, elles entrent et sortent très très librement, Hélène Cixous.
Oui, tout à fait. Mais justement, elles ne sont pas seules. C'est-à-dire que pour moi, il y a tout autant de présence de l'Iliade et de l'Odyssée ou de Shakespeare. C'est absolument pas sélectif ou c'est pas non plus une monoculture, c'est très vaste. Parce que nous sommes les héritiers, et c'est une chance extraordinaire, de mythes qui ont une beauté et une richesse que nous n'épuiserons jamais, jamais. Où ce que nous n'avons pas encore vécu a déjà été vécu dans le plus subtil, le plus poignant des sentiments, des passions. Et ce sont comme des sortes de modèles dont parfois nous ne savons absolument pas justement que nous sommes les héritiers, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais ouvert ces livres, mais même s'ils n'ont jamais ouvert un livre, quelque chose de ces expériences primitives, de ces scènes primitives où on a souffert, où on est tombé, où on a mal agi, bien agi, oublié, trahi, nous le recevons. Nous le recevons dans une sorte de généralité du discours, dans ce qu'il en reste de tout à fait ténu dans le social. C'est comme par exemple là, en ce moment, on parle sans arrêt, et pour cause d'hospitalité, on parle sans arrêt de migrants, etc. C'est à l'origine de notre expérience mythologique et historique. Il n'y a que ça. Voilà. L'histoire des hommes, ce n'est que ça.
Mais on n'entend pas beaucoup les résonances. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup ces mots-là, mais le fait de comprendre et d'entendre en soi-même que c'est à l'origine, ça, c'est pas très audible dans les temps.
Eh bien oui, parce que justement, c'est l'état de la civilisation actuelle. C'est-à-dire une civilisation qui s'auto-protège, qui se referme, qui s'habitue aussi, par exemple, à un état de guerre mondialisé. Moi, je me rappelle avoir vécu les guerres, quand j'étais petite, de guerre en guerre, avec une sorte comme ça d'image qui était que, mais après la guerre, il y a la paix. Et ça, c'était merveilleux. C'est-à-dire que au cœur des guerres, je pouvais me dire, il y a la paix dont je ne savais rien, mais dont je savais qu'elle avait existé avant les guerres, moi étant née avec les guerres. Et je me disais donc, voilà, il y aura paix, puis c'était quand même un rêve qui a été partagé par une très vaste quantité de gens. L'Occident a pu penser ça pendant 50 ans, quoi. Puis on se rend compte que ça, c'était une pensée qui est une pensée datée, par exemple, du XXe siècle. Et maintenant, on est dans une époque où il n'y a que guerre, avec ce que ça entraîne comme douleur généralisée, avec les populations qui circulent sur toute la terre en cherchant un abri ou de quoi boire ou manger, et celles qui les rejettent, comme ça s'est passé des centaines de fois dans l'histoire. Et là, on n'apprend rien. C'est-à-dire que la violence humaine à l'égard des hommes, elle ne change pas. Voilà. Les masques du mal sont simplement un peu transformés, mais bon.
Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, Hélène Cixous, pour terminer cette émission, nous lire un passage de Défiant l'Augure? Parce que je vois que vous avez plein de petits marque-pages colorés.
Mais je ne sais pas à quoi ils correspondent, donc je vais le faire. Mais je prends au hasard, alors si vous me permettez, j'espère que ce n'est pas un mauvais choix. Bon. Il n'y avait personne quand les étoiles sont tombées sur nous. Ce qui est arrivé est arrivé. Dans la grotte régnait la nuit sans fin du présent absolu. Même la création n'avait pas encore été créée. Nous avions probablement laissé nos familles, nos professions, nos souliers dehors dans le couloir à l'entrée. Dedans, en l'absence de tous les futurs attributs, Il n'y a pas mémoire ni loi. Une toute puissante grâce nous porte l'un autour de l'autre. Il n'y a pas d'autre explication que la force d'attraction. Au commencement, il y a la réponse. Un être répond de tout son corps à un être déjà en état de réponse de tout son corps, avant même que les formulaires de questions soient remplis. Nous sommes précédés, dis-je. Décidé, dit Isaac. Précipité. Surpassé. The closest, le plus près, c'est ça. The closest, ce superlatif de proximité dans l'espace, ça relève d'une topologie fantastique, héritée du christianisme, dit ma fille. Je me méfie des superlatifs, dit la voix de ma mère. The closest to heaven, le plus près du ciel, on n'y arrive pas, dit ma fille. Elle regarde le poème comme on regarderait le dessin de l'homme volant de Vinci. Ça me fait penser au cousin Hans Jonas, celui des jumeaux qui était communiste, dit ma mère. Il rêvait la nuit qu'il était pilote d'avion. Après Auschwitz, il est vraiment devenu colonel de l'aviation et maire de Pankow. Mais Peter, le jumeau, qui n'était pas communiste, il est mort au camp, de toute façon il avait peur de l'avion. Il y a une providence pour tout, mais où est l'explication, dit ma mère.
Merci infiniment, c'est un bon choix, non?
Je sais pas.
Défions l'augure.
Toujours défions le choix.
Voilà, c'est ça. Défions l'augure et le choix, c'est le titre de votre dernier texte publié aux éditions Galilée. Merci beaucoup, Hélène Sixon.
Merci, Marie.
Que sera votre vie quand le silence entre les sons?
Par les temps qui courent, quel livre vous reste absolument fermé?
Quel livre me reste fermé? Ça dépend. Enfin, il y a des livres que je n'ouvre pas. Enfin, ou que j'ouvre vaguement et qui ne sont pas des livres, qui sont des faux. Voilà.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fait rire?
Alors là, je peux dire que... mes chats me font rire parce que elles improvisent sans arrêt des dialogues, des jeux. Elles miment des violences qu'elles arrêtent in extremis. Mais bien sûr, ce qui me fait rire, c'est ce qu'on se dit, ce que nous nous disons les uns les autres, les actes manqués dans la parole. Je ne ris jamais de ce qui se passe politiquement. Alors ça ne me fait jamais rire.
Et enfin, par les temps qui courent, que nous apprennent les enfants?
J'adore. C'est pas qu'ils m'apprennent quelque chose, c'est que je recommence. C'est-à-dire que je remercie toujours les enfants d'être les porteurs et les gardiens de toutes les enfances. Et d'être à l'origine de la découverte du monde, ça c'est, et du langage.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h avec le réalisateur Ladjli. Ce soir, au son, c'était Bruno Mourlan. À la réalisation, Olivier Guérin. Jeanne Aléos, Corinne Amar et Romain de Bec-de-Lièvre m'aident à préparer cette émission et je réponds @MarieRicheux sur Twitter.
La gauche essaiera de temps en temps. La droite. Que sera votre vie quand l'air sera liquide, l'eau solide, la terre feu? Sera votre vie. Que sera votre vie? Quand l'air sera liquide, l'eau solide, la terre feu. Thank you. guide l'eau solide, la terre feu.